Chapitre 24. Le Raphaël est dans la partie finale de son ellipsoïde de retour. Il est lancé dans le système de Parvati en direction de son Soleil à la vitesse de 0,03 années-lumière. Le vaisseau courrier de combat de classe Archange est lourd d'aspect avec ses baies de propulsion massive, ses nacelles comme rafistolées, ses bras de spin, ses tourelles d'armes et les forêts d'antennes dont il est hérissé. La minuscule sphère de vie et le vaisseau de descente collé sur son dos, comme une pensée de dernière minute, accentuent son aspect hétéroclite, mais il se transforme en véritable vaisseau de guerre en opérant une rotation à 180 degrés qui le précipite la proue la première en direction du point de translation estimé du vaisseau qu'il poursuit. Dégiration dans une minute, annonce De Soya sur le canal tactique. Les trois soldats, dans le sas d'abordage ouvert, n'ont pas besoin d'accuser réception de la transmission. Ils savent que même lorsque l'objectif émergera dans l'espace réel, il leur demeurera invisible, malgré les amplificateurs de leur visière, durant 2 minutes supplémentaires. Sanglé sur sa couchette d'accélération, les panneaux de commande déployés autour de lui, sa main gantée posée sur le manche universel, sa dérivation tactique en place de manière à n'être qu'un avec son vaisseau, le père capitaine De Soya écoute la respiration des autres sur le canal com, tout en guettant et détectant l'approche de l'objectif. « Je reçois un signal de distorsion Hawking. 39 degrés d'angle. Coordonnées 00039, 199, dit-il dans son micro. Point d'émergence 00090 km. Probabilité d'un seul vaisseau, 99%. Vitesse relative 19 km/s. Soudain, l'objectif devient visible au radar, au Tédirac et sur tous les capteurs passifs. « Je l'ai !» annonce De Soya à ses hommes. « Il est juste à l'heure comme prévu. »«
Merde !»«
Qu'est-ce qu'il y a ?»
demande le sergent Grégorius. Ses hommes et lui ont vérifié leurs armes, leurs explosifs et leurs colliers d'abordage. Ils sont prêts à sauter dans moins de 3 minutes.
Le vaisseau a commencé à accélérer au lieu de décélérer comme nous l'avions prévu dans la plupart des cimes.
Sur son canal tactique, il autorise le vaisseau à exécuter des solutions de rechange préprogrammées.
Accrochez-vous bien,
crie-t-il aux soldats. Mais les tuyères sont déjà mises à feu et le Raphaël a commencé son mouvement de rotation.
Pas de problème,
reprend-il tandis que le propulseur principal démarre en les portant d'un coup à 147 gravités.
Restez dans le champ protecteur pendant le saut. Il ne faudra pas plus d'une minute pour aligner nos vitesses.
Ni Grégorius, ni Ki, ni Rettig ne répondent. De Soya les entend respirer. 2 minutes plus tard, le père capitaine annonce.
J'ai une image.
Le sergent Grégorius et ses deux hommes se penchent pour regarder par l'entrée ouverte du sas. Grégorius aperçoit l'autre vaisseau sous la forme d'une boule de flamme de fusion. Il active son ampli image pour voir au-delà, met des filtres et aperçoit le vaisseau proprement dit.
« Exactement comme dans les cimes,
fait qui ?»«
Il ne faut pas penser comme ça !»
aboie le sergent.
« La réalité n'est jamais comme dans les cimes !»
Il sait que les deux hommes en ont déjà conscience. Ils ont une excellente expérience du combat. Mais Grégorius a été sergent-instructeur au commandement de la Pax sur Armagast pendant 3 ans et il a parfois du mal à réprimer ses réflexes.
« Il est rapide, » fait De Soya. « Si nous n'avions pas l'avantage de l'inertie, je crois que nous ne pourrions jamais les rejoindre. Même ainsi, nous ne pourrons aligner nos vitesses que pendant 5 ou 6 minutes. »«
C'est plus qu'il n'en faut, » déclare Grégorius. « 3 suffiront. Rangez-vous simplement bord à bord, capitaine. »
On y est presque. Ils nous ont sur leurs écrans.
Le Raphaël ne possède pas de capacité furtive. Tous ses instruments de détection enregistrent les capteurs de l'autre vaisseau verrouillé sur lui.
« 1 kilomètre, annonce-t-il. Aucun système d'armes en activité. Champ de protection au maximum. V-delta en diminution. 800 mètres. »
Grégorius, Ki et Rettig décrochent leur fusil à plasma de leur épaule et s'accroupissent.
300 mètres.
200, fait la voix de De Soya. L'autre vaisseau demeure passif. Son accélération est très élevée, mais constante. Dans la plupart des cimes, De Soya a programmé une poursuite acharnée avant de pouvoir accoster et annuler les champs de l'autre vaisseau. Mais là, c'est trop facile. Pour la première fois, le père capitaine commence à s'inquiéter réellement.
« Nous entrons en deçà du rayon d'action de leurs armes de bord, » annonce-t-il. « Sautez !»
Les trois gardes suisses jaillissent du sas, leur paquetage à réaction crachant des flammes bleues.
« Disruption, maintenant !»
crie De Soya. Les champs du vaisseau adverse refusent de céder durant une éternité qui dure près de 3 secondes, chose qui n'est jamais arrivée dans les cimes tactiques. Mais ils finissent par tomber.
« Champ ouvert !»
crie le père capitaine. Les autres le savent déjà. Ils se propulsent, se rétablissent, décélèrent et se posent sur la coque ennemie exactement aux endroits prévus. Qui à l'avant, Grégorius sur ce qui était l'étage de navigation d'après les anciens plans, et Rettig au-dessus de la chambre des machines.
« J'y suis !»
fait la voix de Grégorius. Les deux autres confirment aussi leur arrivée 1 seconde plus tard.
« Collier d'abordage posé !»
annonce le sergent en haletant.
« Posé !»
fait qui ?«
Posé !»
crie à son tour Rettig.
« Au compte inverse de 3, déployez !»
aboie le sergent.
« 3, 2, 1, déployez !»
Son sac polymère diaphane luit au soleil. Sur sa couchette de commandement, De Soya surveille leur vitesse delta. L'accélération les a portés à plus de 250 gravités. Si les champs se désactivaient maintenant, il écarte cette pensée. Le Raphaël force pour conserver l'alignement des vitesses. Encore 4 ou 5 minutes, et il devra décoller s'il ne veut pas risquer de saturer tous les systèmes de propulsion par fusion du vaisseau.
« Dépêchez-vous »
pense-t-il à l'adresse des 3 silhouettes en armure de combat qu'il voit dans son espace tactique et sur les écrans vidéo.
« Parez !»
annonce qui.
« Parez !»
fait la voix de Rettig à côté des ailerons de ce vaisseau absurde.
« Posez les charges !»
ordonne Grégorius en collant la sienne contre la coque.
« Au compte à rebours de 5 !»« 5 !»« 4 !»« 3 !»
« Père capitaine De Soya !»
appelle une voix de petite fille.
« Attendez !»
ordonne De Soya. L'image de la fillette apparaît sur tous les canaux de communication. Elle est assise devant un piano. C'est bien l'enfant qu'il a vu à la sortie du Sphinx 3 mois plus tôt.
« Stop !»
fait à son tour Grégorius le doigt sur le bouton détonateur de sa plaque de poignet. Les autres obéissent. Ils sont tous en train de regarder l'image vidéo qui s'incruste sur leur visière.
« Comment savez-vous mon nom ?»
demande le père capitaine De Soya. Aussitôt, il regrette cette question stupide. Le problème n'est pas là. Si ces hommes ne sont pas à l'intérieur du vaisseau dans les 3 minutes qui viennent, le Raphaël va se laisser distancer et ils seront séparés. Ils ont envisagé cette hypothèse dans leur simulation. Les 3 hommes, à ce moment-là, prennent le commandement du vaisseau après avoir capturé la fille et ralentissent pour que De Soya puisse les rattraper. Mais ce n'est pas le scénario idéal. Il appuie sur un bouton qui envoie son image vidéo à l'autre vaisseau.
« Salut, père capitaine De Soya !»
dit-elle d'une voix tranquille, sans aucune trace de stress.
« Si vos hommes essaient de s'introduire à mon bord, je dépressurise et je meurs. »
De Soya bat des paupières.
« Le suicide est un péché mortel, » dit-il.
Sur l'écran, la petite fille hoche gravement la tête.
« Je sais, mais je ne suis pas chrétienne. Et de toute manière, je préfère aller en enfer plutôt qu'avec vous. »
De Soya regarde attentivement l'image. Sa main ne semble être à proximité d'aucune commande.
« Capitaine !»
fait la voix de Grégorius sur leur canal privé à bande étroite.
« Si elle ouvre le sas, je peux arriver jusqu'à elle et l'entourer d'un sac isolant avant que la décompression ne soit achevée. »
Sur l'écran, la fillette l'observe. Sans remuer les lèvres, il réplique en subvocale sur bande étroite.
« Elle n'appartient pas à la croix. Si elle meurt, nous n'avons aucune garantie de pouvoir la régénérer. » « Il y a de bonnes chances pour que l'infirmerie de bord puisse la ranimer et la remettre en état après une simple décompression. » déclare Grégorius. Il faudra au moins 30 secondes pour que son étage perde toute son atmosphère. J'ai largement le temps de l'avoir avant. Vous n'avez qu'un mot à dire.
Je ne plaisante pas,
fait l'enfant sur l'écran. Aussitôt, une section de coque circulaire se découpe autour du caporal qui est sous lui. L'atmosphère s'échappe, aspirée par le vide, et remplit le collier d'abordage comme un ballon en le précipitant contre la limite du champ vers la proue du vaisseau. Comme un fou, il met à feu son paquetage à réaction et réussit à se stabiliser avant d'être emporté vers la queue de fusion. Grégorius pose le doigt sur le détonateur de charge creuse.
« Capitaine !»
crie-t-il.
« Attendez !»
fait De Soya en subvocal. C'est la vue de la fillette en manche de chemise qui lui étreint le cœur d'angoisse. L'espace qui sépare les deux vaisseaux est maintenant rempli de particules colloïdales et de cristaux de glace.
« Je suis isolé de l'étage supérieur, » dit la fillette. « Mais si vous ne rappelez pas vos hommes, j'ouvre tous les autres niveaux. »
Moins d'une seconde plus tard, le sas explose et un cercle de 2 mètres se forme dans la coque à l'endroit où se tenait Grégorius. Le sergent s'est propulsé à travers le collier pour changer de place dès que la fillette a commencé à parler. Il s'éloigne maintenant des remous d'atmosphère et des multiples débris qui jaillissent de l'ouverture, réoriente ses tuyères et plante ses brodequins 5 mètres plus loin sur la coque. Il revoit le diaphragme du vaisseau dans sa tête. Il sait qu'elle est juste sous lui, à quelques mètres, presque à portée de sa main. Si elle fait sauter cette section, il a le temps de bondir sur elle, de la mettre dans le sac et de la transporter à l'infirmerie du Raphaël en moins de 2 minutes. Il jette un coup d'œil à son affichage tactique. Rettig s'est propulsé dans l'espace 2 secondes avant que le métal s'éventre sous ses pieds. Et l'autre est à présent stationnaire à 3 mètres de la coque.
« Capitaine !»
appelle-t-il sur faisceau étroit.
« Attendez !»
lui dit De Soya. Il s'adresse à la fillette.
« Nous ne vous voulons aucun mal !»«
Rappelez vos hommes !»
lui crie-t-elle.
« Sinon, j'ouvre le dernier niveau !»
Federico De Soya a l'impression que le temps ralentit tandis qu'il pèse ses différentes options. Il sait qu'il lui reste moins d'une minute pour agir. Ensuite, il faudra décélérer. Toutes les alarmes, tous les voyants sont au rouge sur ses liaisons tactiques avec le vaisseau et les instruments. Il ne voudrait pas laisser ses hommes derrière, mais le plus important, c'est l'enfant. Ses ordres sont clairs et sans équivoque. La fillette doit être ramenée vivante. Tout son environnement tactique passe au rouge. Il est averti que le vaisseau doit décélérer dans moins d'une minute où les commandes automatiques prendront d'autorité la relève. Son panneau de bord lui raconte la même histoire. Il active les circuits audio et parle en même temps sur bande commune et sur faisceau étroit.
Grégorius, Rettig, qui ? Revenez à bord du Raphaël. Immédiatement !
Le sergent Grégorius sent la fureur et la frustration se répandre en lui comme une soudaine explosion de rayonnement cosmique. Mais il a la discipline innée d'un garde suisse.
« À vos ordres !»
lance-t-il. Il reprend sa charge creuse et se propulse vers l'archange. Il voit les traînées bleues des tuyères des 2 autres qui font comme lui. Les champs fusionnés clignotent juste assez longtemps pour les laisser passer tous les 3. Grégorius se pose le premier sur la coque du Raphaël, agrippe une poignée de maintien et pousse littéralement les 2 autres dans le sas d'abordage quand ils arrivent en flottant. Il entre après eux, s'assure qu'ils sont correctement maintenus par leur harnais et active son micro.
Paré et arrimé, capitaine. On décroche.
De Soya est toujours sur le canal en clair pour que la fillette puisse l'entendre. Il quitte l'espace tactique pour revenir en temps réel et incline le manche universel. Le Raphaël relâche sa poussée à 110%, sépare son champ de confinement de l'autre et commence à se laisser distancer. L'écart s'agrandit rapidement. De Soya ne tient pas à rester dans la traînée de fusion du vaisseau plus rapide. Tout indique qu'il ne dispose d'aucun armement, mais c'est une notion toute relative alors que sa traînée peut atteindre 100 km de long dans l'espace. Les champs externes du Raphaël sont sur la défensive, ses systèmes de contre-mesure en automatique, prêts à réagir en 1/1000ème de seconde. Le vaisseau de la fille continue d'accélérer en s'éloignant du plan de l'écliptique. Parvati n'est pas la destination de l'enfant. Un rendez-vous spatial avec des extros ? Les détecteurs du Raphaël ne signalent aucune activité en dehors des patrouilles orbitales du système de Parvati, mais il pourrait aussi bien y avoir des essaims entiers d'extros en train d'attendre à la limite de l'héliosphère. 20 minutes plus tard, le vaisseau de l'enfant est déjà à des centaines de milliers de kilomètres du Raphaël et la réponse leur est donnée.
Nous détectons une distorsion de l'espace Hawking,
annonce le père capitaine de Soya aux trois hommes toujours sanglés dans leur harnais à l'entrée du sas.
Le vaisseau de la fille se prépare à entrer en surgiration.
Vers quelle destination ? Demande Gregorius.
La voix du massif sergent ne laisse rien percer de la fureur qu'il éprouve encore à l'idée de l'occasion qu'il vient de manquer. De Soya consulte de nouveau ses affichages avant de répondre.
L'espace proche du vecteur Renaissance. Pas très loin de la planète.
Gregorius et les deux autres gardes suisses ne disent rien. De Soya devine leur question muette.
Pourquoi le vecteur Renaissance ?
C'est une place forte de la Pax. 2 milliards de chrétiens, des dizaines de milliers de soldats, des dizaines de vaisseaux de guerre de la Pax.
Pourquoi là ?
Elle ignore peut-être ce qu'elle va y trouver, murmure-t-il plus pour lui-même que pour les autres.
Il réactive l'espace tactique et flotte au-dessus du plan de l'écliptique où il suit des yeux le point rouge qui surgit à des vitesses C+, et disparaît du système solaire.
Le Raphaël est sur la même trajectoire, à 50 minutes du vecteur de translation. De Soya quitte l'espace tactique, effectue une vérification de tous les systèmes et annonce
« Vous pouvez quitter le sas à présent. Rangez tous les équipements d'abordage. »
Il ne leur demande pas leur opinion. Il n'y a pas de discussion pour savoir s'il va translater l'archange dans l'espace du vecteur Renaissance. La trajectoire a déjà été calculée, et le vaisseau s'apprête à accomplir le saut quantique. Il ne leur redemande pas s'ils sont prêts à mourir de nouveau. Ce déplacement va être tout aussi mortel que le précédent, naturellement, mais il les conduira dans l'espace contrôlé par la Pax 5 mois avant le vaisseau de la petite fille. La seule question que se pose de Soya, c'est de savoir s'il doit attendre que le Saint-Antoine dégire dans l'espace de Parvati afin d'expliquer la situation à son capitaine. Il décide de ne pas attendre. Cela n'a pas grand sens de vouloir gagner quelques heures sur une avance de 5 mois, mais il n'a pas la patience d'attendre. Il commande au Raphaël de préparer un transpondeur balise et y enregistre ses ordres pour le capitaine Satie du Saint-Antoine. Translation immédiate dans le système du vecteur Renaissance, ce qui représente un voyage de 10 jours pour le vaisseau Torche, avec le même déficit de temps que la fillette, 5 mois. Et à l'arrivée en dégiration dans l'espace du rendez-vous, le Saint-Antoine devra être prêt à combattre immédiatement. Après avoir lancé la balise et transmis sur faisceau étroit ses ordres d'annulation au commandement de Parvati, il fait pivoter sa couchette d'accélération vers les trois hommes pour leur dire
« Je comprends votre déception. »
Le sergent Gregorius ne dit rien. Son visage noir a l'impassibilité de la pierre. Mais le père capitaine de Soya lit le message que contient son silence. 30 secondes de plus et je l'avais. Tout cela laisse de Soya indifférent. Il y a plus de 10 ans qu'il a des hommes et des femmes sous son commandement. Il en a envoyé de plus braves et de plus loyaux à la mort, sans se laisser gagner par le remords ou le besoin de fournir des explications. Il ne scie donc pas devant le géant.
Je pense que la fille aurait mis sa menace à exécution,
dit-il d'une voix qui ne souffre pas la contradiction, ni maintenant, ni plus tard.
Mais cette question est devenue secondaire, ajoute-t-il.
Nous connaissons à présent sa destination. Il s'agit peut-être du seul système de cette région spatiale où personne, pas même un essaim extra, ne peut entrer ou sortir sans être repéré et contrôlé par la Pax. Nous disposerons de 5 mois pour nous préparer à les recevoir, et cette fois-ci, nous ne serons pas seuls. Il s'arrête un instant pour respirer profondément.
Vous avez travaillé dur tous les trois, et l'échec provisoire de Parvati n'est pas de votre fait. Je prendrai des dispositions dès notre arrivée dans le système du vecteur Renaissance pour que vous soyez réintégrés le plus tôt possible dans votre unité.
Gregorius n'a pas besoin de regarder ces deux hommes pour parler en leur nom.
Je vous demande pardon, père capitaine, mais si nous avons notre mot à dire là-dessus, Nous préférons rester avec vous sur le Raphaël jusqu'à ce que la gamine soit capturée et expédiée sur Passem.
De Soya essaie de ne pas montrer sa surprise.
Nous verrons bien ce qui va se passer, sergent.
Le vecteur Renaissance abrite l'un des QG de la flotte, et beaucoup de vos supérieurs seront là. On verra ce qu'ils en penseront. En attendant, nous avons du pain sur la planche. Translation dans 25 minutes.
Père capitaine ?
Oui, caporal qui ?
Entendrez-vous nos confessions cette fois-ci avant notre mort ?
De Soya fait un nouvel effort pour ne rien laisser voir dans son expression.
Oui, caporal.
Je finis de tout vérifier ici et je vous attends au carré dans 10 minutes pour vous confesser.
Merci, mon père, murmure Ki avec un grand sourire.
Merci, dit également Rettig. Merci, père capitaine,
fait Grégorius de sa grosse voix. De Soya les regarde se préparer à la translation. Tandis qu'ils s'éloignent, leurs grosses armures de combat sous le bras, il a un bref éclair de prémonition concernant l'avenir et sent un très grand poids sur ses épaules.
« Seigneur, prie-t-il, donne-moi la force d'accomplir ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. »
Il fait pivoter de nouveau la lourde couchette de commandement face au panneau et commence les vérifications d'usage avant la translation et la mort. Chapitre 25. Un jour, alors que je guidais dans les marais une chasse aux canards dont les participants étaient tous originaires d'Hyperion, je demandai à l'un d'eux, pilote d'aérostat assurant le service hebdomadaire des neuf queues entre Écus et Aquila, ce qu'il pensait de son métier.
Piloter un dirigeable, me dit-il, vous connaissez l'ancienne expression ? De longues heures de monotonie rompues par quelques minutes de panique totale.
Notre voyage ressemblait un peu à cela. Je ne veux pas dire par là que je m'ennuyais. Ce qu'il y avait dans le vaisseau, ses livres, ses anticolos et son piano à queue, par exemple, m'intéressait trop pour que je puisse m'enlacer en 10 jours. Et mes compagnons de voyage me passionnaient. Mais nous ressentions déjà les effets de cette succession de longues périodes d'agréable inaction, entrecoupées d'intervalles dominés par des giclées d'adrénaline. Je dois admettre que j'avais été profondément troublé dans le système de Parvati en voyant, hors de portée de la caméra vidéo, cette frêle petite fille menacée de se tuer, et nous avec, si le vaisseau de la Pax ne nous laissait pas partir. J'avais passé 10 mois comme croupier à la table du Blackjack à Félix, l'une des îles de l'archipel des Neuf Queues, où j'avais eu l'occasion d'observer les joueurs. Cette fillette de 11 ans aurait été sensationnelle au poker. Plus tard, quand je lui demandais si elle aurait exécuté sa menace en ouvrant notre dernier niveau pressurisé au vide spatial, elle se contenta de m'adresser son petit sourire polisson, accompagné d'un geste évasif de la main droite comme pour écarter ce genre de pensée. Des mois et des années plus tard, je devais m'habituer à ce geste.
« Comment connaissais-tu le nom de ce capitaine de la Pax ?» lui demandai-je.
Je m'attendais à je ne sais quelle révélation sur les pouvoirs d'une proto-messie. Mais Aîné se contenta de murmurer
« Il m'attendait devant le sphinx lorsque j'en suis sorti il y a 8 jours. Je suppose que j'ai dû entendre quelqu'un prononcer son nom. »
J'avais de sérieux doutes là-dessus. Si le père capitaine était bien au sphinx, la procédure standard de la Pax l'obligeait à être revêtu de son armure de combat et à communiquer sur des canaux protégés. Mais pourquoi cet enfant me mentirait-elle ?
À quoi bon chercher de la logique ou du bon sens dans tout ça ? Me demandai-je sur le moment.
Il n'y en a pas eu beaucoup jusqu'à présent. Lorsque la fillette était descendue se doucher après notre départ mouvementé du système de Parvati, le vaisseau avait essayé de nous rassurer, Abétik et moi, en nous disant
« N'ayez pas peur, messieurs, je ne vous aurais pas laissé mourir de décompression. »
L'androïde et moi, nous nous étions regardés à ce moment-là. Je suppose que nous nous demandions tous les deux si le vaisseau savait vraiment quel effet cela aurait eu sur nous, ou si l'enfant possédait un pouvoir spécial sur ce genre de choses. Tandis que s'écoulaient les jours de la seconde partie du voyage, je me pris à méditer sur la situation et sur mes réactions. Le problème principal,
je m'en rendais compte à présent, était la passivité, presque l'inutilité, dont j'avais jusqu'ici fait preuve au cours de cette aventure. Âgé de 27 ans, je n'étais pas sans posséder une certaine expérience de l'armée et des choses du monde, même si j'avais principalement vécu jusque-là dans les régions les plus désolées d'Hyperion. Et voilà que j'avais laissé une enfant faire face toute seule à la première situation d'urgence qui s'était présentée. Abétique, au moins, avait une excuse pour sa passivité. C'était un androïde conditionné, par sa bioprogrammation et par des siècles d'habitude, à s'en remettre aux décisions des humains. Mais pourquoi m'étais-je comporté comme une souche? Martin Silenus m'avait sauvé la vie, il m'avait lancé dans cette quête insensée pour protéger la fille, pour la maintenir en vie et pour l'aider à aller là où il fallait qu'elle aille. Mais tout ce que j'avais fait jusque-là, c'était piloter un tapis volant et me cacher derrière un piano à queue pendant qu'elle s'occupait du vaisseau de guerre de la Pax. Au cours du voyage, nous discutâmes longuement, tous les quatre, y compris le vaisseau, de la stratégie à adopter vis-à-vis de ce père capitaine de Soya. Si Aîné ne se trompait pas, il se trouvait sur Hyperion à l'ouverture du Sphinx, ce qui signifiait que la Pax avait découvert un moyen de lui faire prendre un raccourci à travers l'espace de Hawking. Les implications étaient non seulement étonnantes, elles me foutaient une trouille pas possible. Aîné ne semblait pas s'en faire outre mesure. Les jours passant, nous nous installâmes dans des habitudes de vie à bord confortables, bien qu'un peu claustrophobes. Aîné nous jouait du piano après dîner. Nous passions pas mal de temps à la bibliothèque, cherchant dans les holos et les cartes de navigation du vaisseau les endroits où était allé le consul. Il y avait beaucoup d'indices, mais aucun n'était concluant. Dans la soirée, nous faisions de longues parties de cartes. Elle se révéla effectivement redoutable au poker. Ou nous nous livrions à quelques exercices physiques. Pour cela, je demandais au vaisseau d'établir un champ de confinement de 1,3 G, limité au puits d'escalier, et je montais et descendais l'équivalent de 6 étages en spirale durant 3 quarts d'heure. J'ignore ce que cela apporta au reste de mon corps, mais ce que je sais, c'est que mes mollets, mes cuisses et mes chevilles ressemblèrent bientôt à ceux d'un éléphantoïde originaire de quelques mondes de type jupitérien. Quand Aîné découvrit que le champ pouvait être réglé pour n'englober que des toutes petites parties du vaisseau, il n'y eut plus moyen de l'arrêter. Elle se mit à dormir dans une bulle G0 à l'étage de fugue. Elle s'aperçut que la table de la bibliothèque pouvait être morphée en billard et insista pour que nous fassions au moins 2 parties par jour, chaque fois sous une gravité différente. Un soir, j'entendis un drôle de bruit pendant que je lisais un livre sur le pont de navigation. Je descendis jusqu'à l'étage de la fosse holo et trouvai la coque ouverte en diaphragme, le balcon sorti sans le piano, et une sphère géante remplie d'eau flottant entre la balustrade du balcon et la limite extérieure du champ de confinement. « Mais qu'est-ce que...
C'est très marrant !»
me cria une voix de l'intérieur de la bulle où l'eau ne cessait de tournoyer. Une tête, aux cheveux ruisselants, brisa la surface, orientée vers le bas, à 2 mètres au-dessus du balcon.
« Viens, elle est chaude !»
reprit Aîné. Je reculai d'un pas, m'appuyant à la balustrade de tout mon poids, essayant de ne pas penser à ce qui se produirait si le champ de confinement de cette petite bulle avait une défaillance d'une seule seconde. « Ah, Betty, qu'a vu ça ?» demandai-je. Elle haussa ses épaules diaphanes. La bulle émettait des pulsations fractales pyrotechniques qui se propageaient au-delà du balcon, donnant des couleurs et des reflets incroyables à la sphère aquatique. Celle-ci formait une grosse masse d'un bleu changeant, avec des taches plus claires à la surface et à l'intérieur, où des bulles d'air se déplaçaient. En fait, elle me rappelait les photos de l'ancienne Terre que j'avais eu l'occasion de voir. Aîné rentra la tête sous la surface. Un instant, elle ne fut plus qu'une forme indistincte qui s'agitait dans l'eau. Puis elle émergea de nouveau 5 mètres plus loin à travers la surface courbe. 2 petits globes s'échappèrent de la grosse sphère, mais retombèrent aussitôt sur elle, un peu plus loin, attirée, je suppose, par le différentiel de champ, créant des ondes concentriques complexes à la surface de l'eau captive.
« Viens !»
répéta Aîné.
« Tu verras que tu ne le regretteras pas !»«
Je n'ai pas de maillot !»
Elle se laissa flotter une seconde, se retourna sur le ventre et plongea. Quand elle émergea en bas, la tête complètement à l'envers, de mon point de vue, elle me cria
« Qui en a un ? On n'en a pas besoin !»
Je savais qu'elle ne plaisantait pas parce que j'avais vu, quand elle avait plongé, les pâles vertèbres de son dos, ses côtes et son petit derrière de garçon qui reflétait la lumière fractale comme deux minuscules champignons blancs remontant à la surface d'un étang. Dans l'ensemble, la vue du postérieur de notre Messie de 12 ans était à peu près aussi excitante, sexuellement parlant, que les holos des petits-enfants nouveau-nés de Tante Merce dans leur baignoire.
« Amène-toi, Roll !»
me cria-t-elle de nouveau avant de plonger pour gagner le bord opposé de la sphère. Je n'hésitais qu'une seconde de plus avant de retirer ma robe de chambre et mes vêtements. Mais je gardais mon slip ainsi que le tricot qui me servait parfois de pyjama. Un instant, je demeurais indécis sur le balcon. Je n'avais pas la moindre idée de la manière dont je devais m'y prendre pour entrer dans la sphère qui flottait à plusieurs mètres au-dessus de moi. Puis j'entendis
« Saute, idiot !»
Cela venait de la partie supérieure de la sphère que je ne voyais pas. Je sautais. Le passage en G0 se fit à environ 1,50 m de hauteur. L'eau était glacée. Je me retournais dans tous les sens, hurlais de saisissement, chaque muscle de mon corps contracté, puis me débattis comme un fou pour essayer de garder la tête à l'extérieur de la bulle. Je ne fus pas surpris de voir sortir Abétik sur le balcon, attiré par mes cris. Il croisa les bras et s'adossa à la balustrade, les jambes entrelacées au niveau des chevilles.
« Elle est chaude !»
mentis-je en claquant des dents.
« Vous devriez faire un petit plongeon !»
L'androïde sourit et secoua la tête comme un papa qui s'arme de patience. Haussant les épaules, je me retournai puis plongeai. Il me fallut une seconde ou deux pour me rappeler que nager est un peu l'équivalent de se déplacer sous gravité zéro et que se laisser flotter dans l'eau sous G0 ressemble passablement à la nage ordinaire. Dans les deux cas, la résistance du liquide rendait l'expérience plus proche de la natation que du G0. Bien qu'il y eût en plus le plaisir de tomber, quelque part à l'intérieur de la sphère, sur une bulle d'air où l'on pouvait s'arrêter pour reprendre sa respiration, avant de s'agiter de nouveau sous l'eau. Au bout de quelques pirouettes et rétablissements à en perdre tout sens de l'orientation, j'arrivais devant une bulle qui faisait un bon mètre de diamètre, m'immobilisais un instant avant d'y entrer en une folle cabriole, et me retrouvais juste au-dessous des nez dont seule la tête et les épaules émergeaient dans la bulle. Elle me fit un grand signe de la main. Je vis que son torse nu avait la chair de poule, soit à cause de la fraîcheur de l'eau, soit parce que l'air était encore plus froid.
« C'est rigolo, hein ?»
me dit-elle en s'ébrouant et en repoussant à deux mains ses cheveux en arrière. Je constatais que sa chevelure blonde et brune paraissait beaucoup plus foncée quand elle était mouillée. J'essayais, en la regardant, de retrouver les traits de sa mère, la détective lusienne aux cheveux bruns, mais en vain. Je n'avais jamais vu la moindre photo de Brown Lamia. Je n'avais entendu que sa description dans les cantos.
Le plus dur, c'est de s'empêcher de jaillir hors de l'eau quand on arrive au bord,
me dit Aîné, tandis que notre bulle se déformait et se contractait, le mur d'eau courbe miroitant au-dessus de nous.
On fait la course jusqu'à l'extérieur ?
Ajouta-t-elle soudain. D'un coup de rein, elle pivota et se propulsa hors de la bulle d'air. Je voulus la suivre, mais commis l'erreur de trop agiter les bras et les jambes dans la bulle.
Seigneur, j'espère que ni l'enfant ni l'androïde ne virent mes efforts pathétiques.
J'arrivai au bord de la sphère une bonne demi-minute après elle. Nous restâmes quelque temps la tête hors de l'eau. Le balcon et le vaisseau étaient invisibles, de l'autre côté de la sphère. La surface de l'eau s'incurvait autour de nous, disparaissant comme le bord d'une cascade, tandis que les fractales rouges au-dessus de nos têtes explosaient, se contractaient, puis explosaient de nouveau.
« J'aimerais voir les étoiles »,
murmurai-je. Je fus surpris d'avoir dit cela tout haut.
« Moi aussi »,
déclara Aîné. Son visage était éclairé par les jeux de lumière erratique, et je crus voir passer une ombre de mélancolie dans ses traits.
« J'ai froid !»
me dit-elle au bout d'un moment, les dents serrées pour les empêcher de claquer.
« La prochaine fois que je demanderai au vaisseau de nous faire une piscine, je lui préciserai la température de l'eau. »«
Tu devrais sortir, » lui dis-je. Nous fîmes le tour de la sphère. Le balcon nous apparut comme un mur qui se dressait pour nous saluer avec, pour seule anomalie,
la silhouette déformée de Habetik qui nous attendait, une grande serviette déployée pour accueillir Aîné.
Ferme les yeux,
me dit-elle. J'obéis. Je sentis les grosses gouttes d'eau sous Gézéro qui m'aspergeaient le visage, tandis qu'elle crevait la tension de surface de la sphère pour se laisser flotter dans l'air à l'extérieur. Une seconde plus tard, j'entendis le bruit de ses pieds nus qui touchaient le balcon. J'attendis encore quelques secondes, puis rouvris les yeux. Habetik avait refermé la grande serviette autour d'Aîné qui s'y blottissait frileusement, sans pouvoir s'empêcher de claquer des dents.
« Fais attention, me dit-elle. Rétablis-toi dès que tu seras hors de l'eau, ou tu tomberas sur la tête au risque de te rompre le cou. »
Merci, lui dis-je. Je n'avais pas l'intention de quitter la sphère d'eau avant que l'androïde et elle soient partis du balcon. Lorsqu'ils rentrèrent, quelques instants plus tard, je me propulsais hors de la sphère, agitant bras et jambes en une vaine tentative de me retourner à 180 degrés avant que la gravité fasse de nouveau valoir ses droits. Mais je pivotais trop, compensais trop et atterris lourdement sur le derrière. Je pris la serviette que l'androïde avait obligeamment laissée pour moi sur la balustrade, m'essuyai le visage et ordonnai « Vaisseau, vous pouvez désactiver le micro-champ G0 à présent. » Je compris mon erreur une fraction de seconde plus tard. Mais, avant que j'aie pu annuler mon ordre, plusieurs centaines de litres d'eau se déversèrent sur le balcon en une cataracte glacée et pesante accentuée par la hauteur de la chute. Si j'avais été juste en dessous, j'aurais pu être tué. Quelle fin ironique pour une si grande aventure. Mais j'étais à 2 mètres du centre du déluge et je fus seulement projeté contre le balcon, pris dans un tourbillon et emporté vers la balustrade au-dessus de laquelle le flot se précipitait avec force, menaçant de me rejeter dans l'espace, puis vers la poupe du vaisseau, 15 mètres plus bas, et ensuite au fond de l'ellipsoïde du champ de confinement où je finirais comme un insecte noyé dans une éprouvette ovoïde. Je m'agrippai à la balustrade et tins bon pendant que le torrent passait en rugissant.
« Désolé, »
me dit le vaisseau en comprenant son erreur. Il reforma le champ autour de moi pour contenir et canaliser le déluge. Je remarquai que pas une goutte ne s'était répandue dans l'étage holo par la porte ouverte. Quand le micro-champ eut absorbé toute l'eau par petites sphères clapotantes, je récupérai ma serviette trempée et rentrai dans le salon holo. Tandis que la coque se refermait derrière moi en diaphragme et que l'eau, je suppose, était canalisée dans des réservoirs pour être repurifiée afin d'être affectée à nos besoins ou être utilisée comme masse de réaction, je m'arrêtai subitement pour m'écrier « Vaisseau ?»«
Oui, H. Endymion. Ce ne serait pas par hasard une farce de votre part ?»«
Vous voulez dire lorsque j'ai obéi à votre ordre de désactiver le micro-champ G0, H. Endymion ?»
« Oui.
Ce qui s'est passé n'est que la conséquence d'une légère imprévoyance, H. Endymion. Je n'ai pas l'habitude de faire des farces. Soyez assuré que je ne suis pas affecté d'un sens de l'humour quelconque.
»
Je n'étais pas tout à fait convaincu. Mes chaussures et vêtements mouillés à la main, laissant derrière moi un sillage de petites flaques d'eau, je montais dans ma chambre pour me sécher et me rhabiller. Le lendemain, je descendis voir Habetik dans ce qu'il appelait la chambre des machines. Cela ressemblait vaguement à l'espace du même nom à bord d'un navire océanique. Même tuyauterie brûlante, même forme géante et obscure ressemblant à des dynamos, même passerelles et plateformes de métal. Mais Habetik me montra, par l'intermédiaire d'une série de connecteurs SteamSim, que la principale fonction de cette salle était d'assurer l'interface avec les propulseurs du vaisseau et les générateurs de champ. J'avoue que je ne me suis jamais particulièrement intéressé aux réalités induites par ordinateur. Après avoir regardé quelques images virtuelles du vaisseau, je laissai tomber et m'assis à côté du hamac de l'androïde pour bavarder un peu avec lui. Il me raconta comment il avait aidé à entretenir et à moderniser le vaisseau durant de longues décennies et comment il en était venu à croire qu'il ne prendrait plus jamais l'espace. Je le sentis soulagé à l'idée que la grande aventure était en cours.
Vous aviez prévu dès le début que vous participeriez à ce voyage, quelle que soit la personne choisie pour accompagner Aîné ? Lui demandai-je. Il me regarda un long moment sans rien dire.
J'y pense depuis un siècle au moins, à Chandimion,
murmura-t-il.
Mais j'ai rarement osé espérer que mes désirs se transforment un jour en réalité. Grâce à vous, c'est chose faite, et je vous en remercie.
Sa gratitude était si sincère qu'elle me gêna. Vous devriez attendre que nous échappions à la Pax pour me remercier, lui dis-je, histoire de changer de conversation. Je suppose qu'ils nous attendent dans le système du vecteur Renaissance?
C'est probable, en effet.
L'homme bleu ne semblait pas particulièrement préoccupé par cette perspective. Croyez-vous que la menace d'Aîné de dépressuriser le vaisseau puisse marcher une seconde fois? Demandai-je. Il secoua négativement la tête.
Ils veulent la capturer vivante, mais ils ne se laisseront pas reprendre au bluff.
Je haussai un sourcil. Vous croyez vraiment qu'elle bluffait? J'avais vraiment l'impression qu'elle allait ouvrir notre étage.
Je ne suis pas de cet avis, fit Abétik. Je ne connais pas cette jeune personne depuis très longtemps, bien entendu, mais j'ai eu le plaisir de passer quelques jours en compagnie de sa mère et des autres pèlerins durant leur traversée d'Hyperion. Ash Lamia était une femme qui aimait la vie et respectait celle des autres. À mon avis, Ashéné aurait peut-être mis sa menace à exécution si elle avait été seule, mais je ne la crois pas capable de décider de nous faire du mal, à vous ou à moi. Je n'avais rien à répliquer à cela.
La conversation se poursuivit donc sur d'autres sujets. Le vaisseau, notre destination, ce que devaient ressentir les gens du Retz après la chute au bout de tout ce temps. Si nous nous posons sur le vecteur Renaissance, demandai-je de but en blanc, est-ce que vous avez l'intention de nous quitter?
Vous quitter?
Répéta Abétik, dont l'expression, pour la première fois, marqua de la surprise.
Pourquoi vous quitterais-je pour rester là-bas?
Je fis un geste vague de la main.
Je suppose que... Je veux dire que j'ai toujours pensé que vous aimeriez reprendre votre liberté et que vous profiteriez du premier monde civilisé sur lequel nous nous poserions pour...
Je m'interrompis, ne voulant pas aggraver mon cas. Je m'étais déjà montré assez idiot comme ça.
Ma liberté, je la trouve dans le fait d'avoir pu vous accompagner dans ce voyage, à Chandimion, me dit l'androïde en souriant. De plus, je ne vois pas comment je pourrais me mêler à la population locale si je décidais de rester sur le vecteur Renaissance.
Cela soulevait un problème auquel j'avais déjà pensé.
Vous pourriez changer la couleur de votre peau, lui dis-je. L'autochirurgien de bord est tout à fait capable de...
Je m'interrompis de nouveau, percevant dans son expression un changement subtil que je ne comprenais pas.
Comme vous le savez, à Chandimion, me dit-il, nous autres androïdes ne sommes pas programmés comme des machines. On ne nous implante même pas les paramètres de base, ni les azimotifs que l'on affectait aux anciennes IA à base d'ADN, qui ont évolué plus tard pour donner les intelligences du technocentre. Mais certaines inhibitions nous ont été, fermement incorporées au moment de la conception de nos instincts. L'une d'elles, naturellement, nous pousse à obéir aux humains chaque fois que la chose est raisonnable et à empêcher qu'il leur arrive du mal. Cet azimotif est plus vieux que la robotique ou la bio-ingénierie, à ce que l'on m'a dit. Mais un autre de mes instincts est de ne pas changer la couleur de ma peau.
Vous en êtes incapable? Vous ne pourriez pas le faire même si nos vies en dépendaient?
Je le pourrais parfaitement, à Chandimion. Je suis doté de libre arbitre. Je n'aurais pas de mal à le faire, particulièrement si une telle action était conforme à des azimotifs tels que vous protégez, Ashéné et vous. Mais ce choix me mettrait mal à l'aise, très mal à l'aise, croyez-moi.
Je hochai la tête, mais je ne comprenais pas très bien. Nous parlâmes d'autre chose. Ce jour-là, j'inventoriais aussi le contenu des coffres AEV à l'étage du sas principal. Ils étaient mieux fournis que je ne l'avais pensé lors de ma première inspection. Certains articles étaient si archaïques que je dus demander au vaisseau de m'expliquer leur usage. La plupart des objets destinés aux activités extravéhiculaires étaient cependant évidents. Scaphandres spatiaux et combinaisons atmosphériques d'urgence, quatre scooters de l'espace habilement pliés dans leur compartiment de rangement sous les scaphandres, lampe à batterie longue durée, matériel de camping, masque à osmose et équipement de plongée au complet avec palmes et fusils sous-marins, une ceinture de vol EM, trois caisses à outils, deux trousses médicales bien garnies, trois nécessaires de vision nocturne avec lunettes infrarouges, trois casques légers équipés de minicom, de caméras vidéo et de persocs. Je dus m'enquérir auprès du vaisseau sur l'usage de ces derniers. J'avais grandi sur un monde dépourvu d'infosphères où ils étaient totalement inutiles. Bordés d'un liseré argenté à l'ancienne, ils devaient être âgés de plusieurs décennies. Certains, massifs de la taille d'un petit livre, étaient même de véritables antiquités. Tous pouvaient faire office de communicateurs, stocker de grandes quantités de données, se brancher sur l'infosphère locale et, surtout les modèles les plus anciens, se connecter à distance au relais distance qui donnait accès à la mégasphère. Je retournai dans ma main l'un des bracelets qui pesait moins d'un gramme. Il ne servait plus à rien. Je savais, grâce aux conversations des chasseurs venus d'autres mondes, qu'il existait de nouveau des planètes possédant des infosphères rudimentaires. Le vecteur Renaissance en faisait partie à ma connaissance. Mais les relais distrans avaient disparu depuis 3 siècles. Le distrans, cette bande universelle de communication ultra-rapide dont dépendait toute l'hégémonie, était silencieux depuis la chute. Je fis le geste de remettre le persoc dans son étui doublé de velours. « Il pourrait être utile de le prendre avec vous si vous deviez me quitter pendant quelque temps », me dit le vaisseau à ce moment-là. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule. « Pourquoi ?»« Pour avoir des informations. Je me ferai un plaisir de déverser le contenu de mes banques de données de base dans un ou plusieurs de ces appareils. Vous pourriez y accéder à volonté. » Je me mordillais la lèvre, essayant d'imaginer l'utilité d'avoir à mon poignet la masse confuse des données du vaisseau. Puis j'entendis la voix de grande dame dans mon enfance. « L'information est toujours précieuse, Roll. Elle ne vient qu'après l'amour et l'honnêteté dans les efforts que peut faire une personne pour comprendre l'univers. « Bonne idée !» déclarai-je en passant le fin bracelet d'argent à mon poignet. « Quand pouvons-nous charger les données ?»«
Je viens de le faire, » répliqua le vaisseau.
J'avais soigneusement examiné le contenu du coffre à armes avant notre arrivée dans l'espace de Parvati. Il n'y avait rien là qui aurait pu ralentir une seule seconde un garde suisse. Mais je repassais alors en revue tous les objets du coffre dans un esprit différent. C'est drôle comme les vieilles choses peuvent paraître vieilles. Les scaphandres, les scooters, les lampes et presque tous les objets que contenait ce vaisseau semblaient archaïques, totalement démodés. Il n'y avait pas de combinaison peau, par exemple. Et la forme, la masse et la couleur de chaque objet évoquaient les illustrations au lot des documents d'histoire. Pour les armes, cependant, ce n'était pas la même chose. Elles étaient vieilles, certes, mais parfaitement familières à mes yeux et à mes mains. Le consul, de toute évidence, était un chasseur. Il y avait sur le râtelier une demi-douzaine de fusils bien rangés et parfaitement huilés. J'aurais pu prendre n'importe lequel pour aller chasser le canard dans les marais. Ils allaient d'un petit 310 au canon superposé à un massif calibre 28 juxtaposé. Je jetai mon dévolu sur un fusil à pompe calibre 16, d'un modèle antique mais parfaitement bien conservé, tirant de vraies cartouches. Je le posai dans le corridor. Les carabines et fusils à énergie étaient splendides. Le consul devait les collectionner car ces modèles étaient des œuvres d'art en même temps que des engins à tuer. Leur crosse était ornée de ciselures, l'acier était bleui, les éléments assemblés à la main, le tout parfaitement équilibré. Au fil des siècles, plus d'un millénaire, qui avait suivi le XXe, où les armes individuelles, fabriquées en série pour avoir un maximum d'efficacité, étaient aussi laides que des arrêts de porte, les gens comme le consul et moi, entre autres, avaient appris à apprécier les belles armes fabriquées à la main en nombre limité. Sur leur atelier, il y avait des fusils de chasse de gros calibre, des fusils à plasma, qui méritaient parfaitement leur nom, avais-je appris lors de mes classes dans la garde nationale, les cartouches à plasma se transformant naturellement en décharges de pure énergie à la sortie du canon, mais bénéficiant des rayures avant de se volatiliser. Deux fusils à énergie à technologie laser, à la crosse finement gravée, cela était mal nommé par un artifice de langage et non de conception,
pas très différent de l'arme avec laquelle Ash Herrig avait tué Izzy il n'y avait pas si longtemps. Un fusil d'assaut noir mat, appartenant à l'arsenal de la Force, est probablement analogue à celui que le colonel Fedman Kassad avait amené sur Hyperion 3 siècles plus tôt. Une arme à plasma au canon énorme, que le consul avait dû utiliser pour chasser le dinosaure sur je ne sais quelle planète, et enfin 3 pistolets. Il n'y avait aucun bâton de la mort, ce dont je ne pouvais que me réjouir. Je détestais ces sales trucs. Je retirai du râtelier l'un des fusils à plasma, le fusil d'assaut de la Force et les 3 pistolets, que je voulais examiner de plus près. Le fusil de la Force était particulièrement laid, contrairement aux pièces de collection du consul, mais je compris tout de suite pourquoi il était là. C'était une arme tous usages. Un fusil à plasma 18 mm à rayon variable d'énergie cohérente qui pouvait servir de lance-grenade, de guide de fise, faisceau haute énergie d'électrons, de lance-fléchette, d'éblouisseur large bande, de lanceur de dards thermosensible et je ne sais quoi d'autre encore. Je suppose qu'il ne pouvait pas faire cuire les repas des troupiers de la Force, mais on aurait presque pu y arriver en réglant le faisceau variable sur faible intensité. Avant notre arrivée dans le système de Parvati, j'avais envisagé d'accueillir avec ce fusil de la Force les gardes suisses qui auraient voulu nous prendre à l'abordage, mais les armures de combat modernes étaient capables de tout arrêter et honnêtement, je craignais de ne réussir qu'à les rendre furieux. J'étudiais l'arme un peu plus attentivement. Elle était suffisamment polyvalente pour nous servir si nous nous éloignions un peu du vaisseau et si j'avais à affronter un ennemi un peu plus primitif qu'un garde suisse, disons un homme des cavernes ou un chasseur à réaction, ou encore un pauvre diable équipé comme je l'avais été quand je faisais partie de la garde nationale d'Hyperion. Finalement, je renonçais à le prendre. Il pesait beaucoup trop lourd pour quelqu'un qui ne portait pas une de ces anciennes armures de combat exopropulsées de la Force. De plus, il n'y avait pas de réserve de fléchettes, de grenades ou de fise. Quant aux cartouches pulsantes de 18 mm, il y avait des siècles qu'on n'en trouvait plus. Pour utiliser l'arme en mode rayonnant, il fallait que je sois à proximité du vaisseau ou d'une autre source d'énergie importante. Je remis donc le fusil d'assaut en place, conscient d'avoir peut-être à la main l'arme personnelle du légendaire colonel Fedman Kassad. Elle ne correspondait pas à la collection du consul, et il l'avait peut-être gardée pour des raisons sentimentales. Je posais la question au vaisseau, mais ses souvenirs étaient confus. « Surprise, surprise !» murmurai-je alors entre mes dents. Les pistolets, encore plus anciens que le fusil d'assaut, étaient cependant beaucoup plus prometteurs. Chacun des 3 était une pièce de collection, mais leur magasin à cartouches était encore d'un modèle courant, tout au moins sur Hyperion. Je ne pouvais rien dire en ce qui concernait les mondes où nous allions nous rendre. La plus grosse de ces armes, un pénétrateur automatique Steiner Jean de calibre 60, était un pistolet redoutable mais lourd. Les matrices à cartouches pesaient presque autant que l'arme elle-même, et celle-ci était conçue pour tirer ses munitions à une vitesse prodigieuse. Je la remis en place. Les 2 autres armes me semblaient plus intéressantes. Il y avait là un petit pistolet à fléchette, tout à fait maniable, qui aurait pu être l'arrière-grand-père de celui que Ash Herrig avait utilisé contre moi. Il était accompagné de plusieurs centaines de petits ovoïdes, le chargeur de la crosse en acceptait 5 à la fois, qui contenaient chacun plusieurs milliers de fléchettes. C'était l'arme idéale pour quelqu'un qui n'était pas forcément bon tireur. Ce fut le 3e pistolet qui m'étonna le plus. Il était dans un étui de cuir huilé et je le sortis d'une main qui tremblait légèrement. Je ne le connaissais que pour l'avoir vu en photo dans de vieux livres. C'était un 45 semi-automatique qui utilisait de vraies cartouches à chemise en laiton et non une matrice qui les créait à mesure que l'on tirait. Il avait une crosse moulée, un viseur en métal, un corps en acier bleuté. Je le retournai plusieurs fois dans mes mains. Ce truc-là avait facilement plus de 1000 ans. Je regardais à l'intérieur du coffret où je l'avais trouvé. Il y avait là 5 boîtes de cartouches 45 représentant plusieurs centaines de balles. Je me dis qu'elles devaient être aussi anciennes que l'arme, mais il y avait une étiquette, l'usus environ 3 siècles plus tôt. Est-ce que Brand Lamia n'avait pas un vieux 45, d'après les Cantos?
Lorsque je posais un peu plus tard la question à Aînée, celle-ci m'affirma qu'elle n'avait jamais vu sa mère avec une arme à feu. Le 45 et le pistolet à fléchette me semblaient utiles, mais j'ignorais si les cartouches du 45 étaient encore bonnes. Aussi, je sortis avec sur le balcon, prévins le vaisseau que le champ de confinement externe devait empêcher la balle de ricocher et pressai la détente. Rien ne se produisit. Je me souvins alors que ces trucs-là avaient une sécurité manuelle. Je la repérais, la désactivais et tirais de nouveau. Seigneur, quel bruit! Mais cela marchait parfaitement. Je remis l'arme dans sa gaine et accrochai celle-ci à ma ceinture où elle semblait parfaitement à sa place. Naturellement, lorsque j'aurais tiré ma dernière cartouche, il n'y en aurait plus jamais d'autres à moins que je ne découvre quelque part un club de collectionneurs qui les faisait fabriquer sur mesure. Je n'ai pas du tout l'intention de tirer plusieurs centaines de balles avec ce truc-là, me dis-je sur le moment. Si seulement j'avais pu savoir. Je montrai les armes que j'avais choisies à la fillette et à l'androïde. Il y en avait quatre, le 45, le pistolet à fléchette, la carabine et le fusil de chasse à plasma. Si nous devons nous aventurer en territoire inconnu, leur dis-je, et particulièrement s'il s'agit de zones inhabitées, il faut que nous soyons prêts à tout. Je leur proposais tour à tour le pistolet à fléchette, mais ils refusèrent. Aîné ne voulait aucune arme, et l'androïde me rappela qu'il ne pouvait pas en utiliser contre un être humain. Quant aux bêtes sauvages, il me faisait confiance pour le tirer d'affaire si l'une d'elles le chargeait. Je soupirais, mais rangeais la carabine, le fusil de chasse et le pistolet à fléchette. « Je garde ça », leur dis-je en touchant le 45.
« Ça va bien avec le reste de ton équipement ?»
me dit Aîné avec un petit sourire. Il n'y eut pas de discussion de dernière minute pour élaborer un plan, cette fois-ci. Aucun de nous ne pensait que la menace d'Aîné de se détruire pourrait marcher une deuxième fois si la Pax nous attendait à l'arrivée. Notre plus sérieux débat sur les événements à venir se déroula 2 jours avant la dégiration dans le système du vecteur Renaissance. Nous sortions d'un excellent repas. Abétique nous avait préparé un filet de manta en sauce et nous avions trouvé dans la cave du vaisseau une bonne bouteille de vin du bec. Aîné joua du piano pendant 1 heure, accompagné par l'androïde à la flûte. Puis nous nous lançâmes dans une grave discussion sur l'avenir.
« Vaisseau, que pouvez-vous nous dire sur le vecteur Renaissance ?»
demanda la fillette. Il y eut un bref silence, que je savais maintenant interpréter comme un profond embarras du vaisseau.
« Désolé, Aîné, mais à part les renseignements de navigation habituels et quelques cartes qui n'ont pas été mises à jour depuis des siècles, je ne possède absolument aucun renseignement sur ce monde. »
« J'y suis déjà allé, » intervint Abétique. « Il y a des siècles de cela également, mais nous avons capté des émissions radio et télé sur la planète. »
J'ai entendu les conversations de quelques chasseurs originaires du vecteur Renaissance, déclarai-je. En général, c'était les plus riches. Je fis signe à l'androïde. À vous l'honneur.
Abétique hocha la tête, puis croisa les bras en disant. Le vecteur Renaissance était l'un des mondes les plus importants de l'hégémonie. Très proche de la Terre sur l'échelle de Solmef, colonisé par les tout premiers vaisseaux d'ensemencement. Il était totalement urbanisé à l'époque de la chute. Il est resté célèbre pour ses universités, ses centres médicaux, c'est là que la plupart des traitements Poulsen ont été administrés aux citoyens du Retz qui pouvaient se les offrir. Son architecture baroque, particulièrement bien illustrée par la forteresse de Montagnenable, et ses performances industrielles. La grande majorité des vaisseaux de la Force ont été construits dans ces chantiers. En fait, le vaisseau sur lequel nous nous trouvons en sort. C'est un produit du complexe Mitsubishi AFSEC.
Vraiment, fit la voix du vaisseau. Si je l'ai su un jour, l'information s'est perdue. Très intéressant en vérité.
Aîné et moi nous échangeâmes, pour la 12e fois au moins au cours de ce voyage, des regards inquiets. Un vaisseau qui avait perdu le souvenir de son passé et de ses origines ne laissait pas d'être un peu inquiétant quant à sa capacité d'effectuer les manœuvres complexes du vol intersidéral.
« Bah !» me dis-je pour la 20e fois.
Il nous a bien fait rentrer dans le système de Parvati, puis en ressortir.
La capitale est Vinci, poursuivit Abétique. Mais tout le continent et une partie de l'immense mer planétaire sont fortement urbanisés, de sorte qu'il n'y a pratiquement pas de transition entre un centre urbain et son voisin.
C'est l'une des planètes de la Pax les plus actives, ajoutai-je. L'une des premières, en fait, à être entrée dans la Pax après la chute. Les militaires y sont installés en force.
Le vecteur Renaissance, comme Renaissance M, possède des garnisons lunaires et orbitales. Il y a des bases partout sur les deux planètes.
C'est quoi, Renaissance M ?
Demanda Aîné.
Renaissance Minor, expliqua Abétique. La deuxième planète à partir du Soleil. La troisième est le vecteur Renaissance. Minor est également habité, mais à un degré moindre. C'est principalement un monde agricole, avec de grandes fermes automatisées qui couvrent presque toute la surface continentale. C'est le grenier du vecteur. Après la fin des distances, les deux planètes ont bénéficié de cet arrangement. Avant que le commerce interstellaire régulier soit rétabli par la Pax, le système Renaissance était largement autosuffisant. Le vecteur Renaissance fabriquait des biens de consommation et Renaissance Minor fournissait la matière première pour alimenter ses 5 milliards d'habitants.
Quelle est la population du vecteur aujourd'hui ? Demandai-je.
Je pense qu'elle n'a pas évolué. Toujours 5 milliards à quelque chose près. Comme je l'ai déjà dit, la Pax s'est installée ici très tôt et a immédiatement offert à la population aussi bien le cruciforme que le régime de régulation des naissances qui va avec.
Vous dites que vous êtes déjà venu ici, fis-je remarquer à l'androïde. À quoi ressemble la planète ? Murmura l'androïde avec un sourire mélancolique.
Je suis resté moins de 36 heures en escale sur le vecteur Renaissance. Nous venions d'Asquith, et nous nous apprêtions à coloniser le nouveau territoire d'Hyperion au nom du roi William. Ils nous ont sortis du sommeil cryotechnique, mais sans nous donner l'autorisation de quitter le vaisseau. Mes souvenirs de ce monde se résument donc à peu de choses.
Est-ce que les habitants de ce monde sont principalement des chrétiens régénérés ?
Demanda Aînée.
Elle paraissait songeuse, comme perdue dans ses pensées.
Je remarquai qu'elle se rongeait de nouveau les ongles.
Bien sûr, lui répondit Abétique. La quasi-totalité des 5 milliards, j'en ai bien peur.
Et je ne plaisantais pas en ce qui concerne la lourde présence militaire de la Pax, ajoutai-je. Les instructeurs qui nous ont fait faire nos classes sur Hyperion étaient basés sur le vecteur Renaissance. C'est l'une des plus importantes planètes de garnison et une plaque tournante dans la guerre avec les extros.
Aînée hocha la tête, toujours distraite.
Je décidai d'aller droit au but.
Qu'allons-nous faire là-bas ? Demandai-je. Elle leva la tête vers moi. Ses yeux noirs étaient superbes, mais lointains.
Je veux voir le fleuve Tétis, me dit-elle.
Je secouai la tête. Le Tétis était un artefact d'Istrans. Il n'avait pas d'existence en dehors d'Uretz, ou plutôt il n'existait que sous la forme de petits tronçons de 1000 cours d'eau différents.
Je sais cela. Je veux seulement voir une rivière qui faisait partie du Tétis à l'époque d'Uretz. Ma mère m'en a tellement parlé. Elle m'a raconté que cela ressemblait au confluent, en plus paisible. On pouvait passer d'un monde à l'autre en barge, en naviguant pendant des semaines et même des mois.
Je résistais à l'impulsion de me mettre en colère.
Tu sais très bien que nous n'avons pratiquement aucune chance de passer à travers les défenses du vecteur Renaissance. Et même si nous réussissons, le fleuve Tétis n'existe plus. Il n'y aura à voir qu'un petit segment sans importance. Tu crois que le jeu en vaut la chandelle ?
Elle voulut hausser les épaules, mais se retint au dernier moment.
Tu te souviens de ce que je t'ai dit au sujet de l'architecte que j'avais besoin de... que j'avais envie de rencontrer pour étudier avec ?
Oui, mais tu ne sais même pas comment il s'appelle. Tu ignores sur quel monde il est.
Pourquoi commencer tes recherches par le vecteur Renaissance ?
On pourrait au moins le chercher sur Minor, ou mieux encore ! Laissez tomber ce système et allez sur un monde plus tranquille, comme Armagast.
Elle secoua la tête. Je remarquai qu'elle s'était coiffée avec un soin particulier. Ses mèches blondes étaient très en valeur.
« Dans mes rêves, »
dit-elle.
L'un des bâtiments construits par cet architecte se trouve au bord du Tétis.
Il y a des centaines de mondes qui contiennent un fragment du Tétis, ripostai-je en me penchant vers elle pour qu'elle comprenne bien que j'étais extrêmement sérieux. Aucun d'eux ne présente pour nous un aussi grand danger de nous faire capturer ou tuer par la Pax.
Sommes-nous vraiment obligés de commencer par le système Renaissance ?
Je crois, murmura Aînée.
Je laissai tomber mes mains à plat sur mes genoux. Martin Silenus ne m'avait jamais promis que cette entreprise serait de tout repos, ni qu'elle aurait un sens. Il avait juste dit qu'elle ferait de moi un héros.
« Très bien !»
déclarai-je, conscient de la très grande lassitude qui perçait dans ma voix.
« Quel est notre plan cette fois-ci, ma belle ?»« Il n'y a pas de plan. S'ils nous attendent, je leur dirai la vérité. Que nous voulons nous poser sur le vecteur Renaissance. Je ne pense pas qu'ils nous en empêchent. »
Et que se passera-t-il si nous nous posons ? Demandai-je. J'essayais d'imaginer le vaisseau encerclé par des milliers de soldats de la Pax.
Nous improviserons à partir de là ?
Fit Aîné avec un sourire.
Quelqu'un veut faire une partie de billard à un sixième de G ? Pour de l'argent cette fois-ci.
J'allais répliquer vertement, mais changeai de ton au dernier moment.
Tu n'as pas un sou, lui dis-je.
Le sourire d'Aîné s'élargit.
Alors, je ne peux pas me permettre de perdre, n'est-ce pas ?